vendredi 13 et je vous le dis, si vous croyez au destin, c'est que vous croyez à l'écrit, à ces vieilles tablettes de Mésopotamie sur lesquelles tout était inscrit et qui font qu'encore aujourd'hui, il nous arrive de dire qu'un événement heureux ou malheureux était écrit. Vous connaissez peut-être l'histoire des tablettes du destin que le dieu Mabrouk détachait chaque année de sa poitrine pour les confier à son fils Nabou en charge du savoir, de l'écriture, de la sagesse. C'est lui qui y gravait les arrêts des dieux, muni du style et du ciseau, et qui y fixait, pour un an, le sort de chaque mortel, le nombre de jours assignés à chacun. À l'origine du mot destin, il y a bien cette idée de fixer, avec des mots, sur du papier ou sur du marbre. Dans l'Antiquité, la construction d'un bâtiment ou d'un monument prenait tellement de temps qu'on inscrivait sur des plaques de marbre les plans, les dimensions, mais aussi les engagements de ceux qui s'en chargeaient. Ce qui est gravé, ce qui est écrit, relevait du contrat. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, charge à nous de les accepter, des choses qui ont été écrites et qu'il faut respecter. Le mot mektoub en arabe, que l'on associe au destin, ne veut pas dire autre chose que cela. C'est ce qui a été écrit dans la table bien gardée, dans le livre de chacun. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on n'a jamais le choix. Le destin, depuis son origine, c'est un contrat.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui croit-il au destin? Il semble, en tout cas, né sous une bonne étoile, chanteur, musicien, il caracole au sommet de tous les classements, collectionne disques de platine ou de diamants, s'apprête à remplir les près de 50 000 places du Parc des Princes. Des chanteurs comme lui, force est de constater qu'il n'y en a pas tellement. Son troisième album, Culinane, sort aujourd'hui et c'est un événement. Bonjour Dadju.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Quel est votre destin? Tiens, si tant est que vous en ayez un.
Bah écoutez, mon destin a été de tomber et de me relever tout simplement à chaque fois et réussir.
Croire au destin, croire qu'un jour vos efforts seraient récompensés, dans quelle mesure ça vous a permis de rien lâcher justement, de jamais céder au découragement?
Je pense vraiment à l'effet placebo, on va dire. Quand on pense que ça va bien se passer, généralement ça se passe bien. Donc je garde cette positive attitude et je me dis toujours que ça va aller, ça va bien se passer. J'ai vécu des choses terribles. Donc je me dis toujours il y a pire.
Parce que quelle difficulté, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il a fallu surmonter justement pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui?
J'ai longtemps vécu dehors, dans la rue, avec ma mère, et j'ai grandi uniquement avec ma mère parce que mon père est parti quand j'étais petit. Au niveau professionnel, j'ai dû me prendre quelques murs. J'ai fait des erreurs de jeunesse, des erreurs de contrat, des erreurs de plein d'erreurs. Et le fait de m'émanciper et d'arriver avec une carrière solo, tout frais, avec un nouveau contrat, quelque chose que je peux décider enfin, ça a été en soi déjà une consécration.
Vous venez d'avoir 32 ans.
31 ans.
Vous
voyez, c'est...
Votre carrière, elle est à son firmament. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui à accomplir?
L'éducation de mes enfants. J'ai 3 enfants aujourd'hui. Il faut que j'essaye d'être plus présent pour eux, je pense. Au niveau professionnel... Prendre du plaisir, commencer à reprendre du plaisir. Parce que quand on rentre dans cette boucle, on commence par le plaisir. Après, ça devient très professionnel, très business. Et j'ai envie de retrouver ce plaisir.
Il faut aussi se maintenir, si je suppose.
Il faut se maintenir, ouais, c'est le plus difficile.
Ça tient à quoi, à votre avis?
Ça tient à tout, hein, ça tient au mental, ça tient aux gens. Il faut avoir un public fidèle aussi. Ça, c'est surtout le public. Et ça tient aussi à la rigueur. Il faut savoir être constant et rigoureux pour garder son public.
Vous êtes tellement calme ce matin, Dadju, parce que je me souviens, il y a quelques années, vous vous cachiez pas. Hein, votre but, c'était quand même de faire mieux que votre frère, que les auditeurs et auditrices de Boomerang connaissent bien, qui s'appelle Maître Gims, ouais, qui est sapé comme jamais et qu'on a reçu à ce micro. L'esprit de compétition, c'est toujours un moteur?
Oui, toujours. Je suis un outsider, je suis un challenger, un peu comme Gims aussi. Voilà, on aime bien se tirer dessus et se dire, voilà, cette fois-ci, c'est moi qui vais choper ça, cette fois-ci, c'est moi qui vais rafler ça. Mais c'est de l'admiration que j'ai, c'est de l'admiration d'un petit frère envers son grand frère.
Et
c'est...
Enfin, si ça se trouve, l'élève a déjà dépassé le maître.
Non, pas encore.
Pas encore. Et surtout, qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'apprendre à son contact, Maître Gims, ne serait-ce que musicalement?
Gims est un professeur malgré lui. Il va faire des choses, il va dire des choses, pas spécialement à moi, mais j'étais là quand il a dit ces choses-là, et c'est comme ça que j'ai appris de lui.
Un petit déclic, un petit mot, quelquefois?
Ce qui m'impressionne le plus chez Gims, c'est qu'il est tout le temps sûr de lui. Et quand il doute, il fait passer la positivité et sa détermination avant le stress. Et j'ai beaucoup pris ça de lui, j'ai beaucoup appris ça de lui.
Qu'est-ce qui se passe, Dadju, quand vous chantez ensemble, quand vos voix s'entremêlent, quand elles se répondent?
Ça donne des beaux singles. Ça donne de la joie, ça donne de la tristesse. On a cette chance, on a un peu le même timbre de voix, mais on a des voix assez différentes. Donc on a cette chance de pouvoir s'amuser sur tous les styles musicaux possibles.
En tout cas, c'est intéressant parce que la musique, c'est quelque chose qui est inscrit dans votre patrimoine familial. Ces générations de musiciens avant vous, qu'avez-vous le sentiment qu'elle vous est transmise?
On est issu d'une famille de musiciens. C'est vrai que le grand-père était musicien, le papa, notre père était chanteur.
Dans le groupe aussi. Congolais Viva la Musica, Papa Wemba.
Et avec Papa Wemba, exactement. Ils ont marqué leur temps, ils ont marqué le Congo aussi avec leur musique. On a cet ADN de musicien, d'artiste, dès la naissance en fait, avec une touche afro. Une touche de musique africaine qui se ressent même dans tous les styles de musique qu'on peut essayer, que ce soit de la pop, que ce soit de la variété, que ce soit du R&B, il y aura toujours cette touche un peu afro dans cette manière de chanter.
C'est une âme, en fait.
Exactement, qui est notre ADN, tout simplement.
Votre père, il avait quelle voix?
Mon père, il avait plus ma voix à moi que la voix de Gims. Une voix un peu plus aiguë. Gims, il a une voix très forte, il a un gros coffre. Et moi, c'est une voix un peu plus aiguë, un peu plus... comment on va dire, un
pointu.
Peu... Pointu, exactement. Voilà, je descends plus de mon père que Gims, en fait.
Et d'ailleurs, quand vous pensez à la musique de Papa Wemba, quels airs, quelles mélodies vous reviennent tout de suite en tête?
Il y a plein de sons qui me reviennent en tête, mais il y a un son en particulier qui s'appelle La vie est belle, qu'il chante dans son film, qui s'appelle La vie est belle. Il n'arrête pas de répéter oh, oh, la vie est belle, débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh, oh, la vie est belle, amoroso, amoroso, oh, oh. Et il répète ça en travaillant parce qu'il est cireur de chaussures pour être dans une joie, dans une bonne humeur et pour... En fait, il montre clairement le contraste entre je suis en train de galérer mais la vie est belle quand même.
Et puis c'était l'incarnation, Papa Wemba, dans le monde entier de la rumba congolaise, dont vous avez été désigné récemment comme l'un des ambassadeurs par le président du Congo. Ça veut dire quoi concrètement ambassadeur, je me suis demandé?
Ambassadeur, c'est être un représentant, être un drapeau, être quelque chose qui transmet cette culture. Et j'ai été très honoré d'avoir reçu ce titre-là. Mais ça ne change pas grand-chose pour moi, parce que j'ai toujours eu cette habitude de toujours mettre mes origines en valeur, de mettre mes origines dans mes sonorités, que ce soit dans mon film, qui a été fait bien avant ce titre.
Parce que cette rumba congolaise, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui la caractérise d'Adjou? Quels sont les rythmes, les sons, les mélodies qui lui sont propres?
Ben, la guitare, déjà. La guitare électrique est très propre à la rumba congolaise. C'est l'amour.
On va y revenir, ça, avec vous.
franchement, les Congolais chantent énormément l'amour. C'est peut-être même le pays, c'est peut-être le peuple qui chante le plus l'amour.
Et ça a eu une grande influence sur votre musique, ça, là encore?
Vraiment, toujours. Ça a toujours eu une influence sur moi. Je vous ai dit que ma manière de chanter découle de ça. C'est-à-dire que je peux faire un milliard de styles de musique. Ma manière de chanter va toujours avoir une connotation rumba congolaise.
Et puis le fait d'enregistrer votre nouveau disque à Kinshasa aussi, je suppose que ça joue.
Ouais, ça a beaucoup joué, ça m'a fait plaisir de... C'est la première fois que je fais ça, j'enregistre toujours mes albums ici en France sans spécialement bouger de la France. Et ça m'a fait plaisir d'être dans un nouveau cadre, avec de nouvelles personnes, d'entendre pas des nouvelles sonorités, mais de les entendre en live, en fait.
Ouais, un autre son. En fait.
Exactement. La rumba, on l'entend dans la rue au Congo. On l'entend en allant acheter à boire, en allant acheter à manger. Tu t'entends de la rumba partout, en fait.
C'est vrai qu'il y en a une qu'on entend dans la rue, dans cette émission, dans toute la maison de la radio et dans toute la France. C'est la culture et son actualité d'Adjou qui mange à tous les râteliers. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 13 mai?
Fédère, devenu le lieu emblématique de l'île 3000.
Lille et Trésor, la métropole du nord de la France, s'apprête à inaugurer dès demain Utopia, la nouvelle saison de l'île 3000, son grand événement culturel jusqu'en octobre. Et sur le thème de la nature, toute la région des Hauts-de-France va bouillonner de propositions artistiques et de métamorphoses urbaines. Les festivités commenceront demain avec la très attendue grande parade d'ouverture, puis se prolongeront avec près de 35 expositions, notamment les sculptures elfiques géantes de Moss People de l'artiste Kim Simonson ou le serpent cosmique au musée de l'Hospice Comtesse. Florence rebranche The Machine, le groupe britannique de rock indé emmené par la flamboyante Florence Welch livre aujourd'hui son cinquième album studio titré Dance Fever et porté par les morceaux Heaven Is Her et My Love. L'opus qui s'envisage comme un conte de fées en 14 morceaux mêle ambiance gothique, inspiration pré-raphaélique et rythmique 80s pour un appel à la danse libre, fiévreuse, hypnotique. Leur tournée européenne d'automne s'arrêtera à l'Accor Arena de Paris le 14 novembre prochain, c'est trop bien. Elle donne la Madone, la pop star. Madonna a annoncé qu'elle lançait une série de 3 NFT caritatifs dont l'intégralité des recettes seront reversées à plusieurs associations œuvrant en Ukraine ainsi qu'au Congo. Pour ce faire, la chanteuse de Like a Prayer s'est associée à l'artiste Beeple pour créer un triptyque numérique baptisé Mother of Creation dans lequel on peut notamment voir la Madone accouchée d'un arbre et de plusieurs robots 1000 pattes, le tout en vidéo et en 3D. Ok.
Bonjour et bienvenue à la Villa Gilet.
Gilet en vrai. Après 2 ans de pandémie et malgré l'annonce de la coupe de ses subventions par la région Rhône-Alpes, la Villa Gilet à Lyon résiste et va pouvoir proposer une édition en présentiel de son prestigieux Festival international de littérature. Dès lundi, l'institution réunit plus de 50 auteurs pour une 30aine d'événements déployés dans plusieurs lieux de la ville. La manifestation rebaptisée Littérature Live 2022 pourra notamment compter sur Maëlys de Kerangal, Mathias Sénard, Nicolas Mathieu ou le formidable auteur ukrainien Andrei Kourkov qu'on a reçu récemment à ce micro. Le chanteur et musicien Dadju, invité de Boomerang ce matin pour la sortie de son 3e album qui s'appelle Kulinan, un disque dont vous dites qu'il est placé sous le signe de la positivité. En réaction notamment à la pandémie, aux différents confinements, une musique positive, ça tient à quoi en fait pour vous? À quel type de production, de son?
Pour moi, c'est de la chaleur. Il faut de la chaleur dans les morceaux, il faut dans le thème, dans le rythme. C'est de là que je tire moi la positivité de la musique.
Alors comment on fait pour trouver de la chaleur?
C'est dans les instruments déjà, dans la rythmique. En fait, même un thème très triste peut être très chaleureux. Si on chante quelque chose de triste sur du tum 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 tum, on peut faire quelque chose comme ça et on va pleurer mais en dansant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est propre à la rumba aussi. La rumba, on pleure tout le temps mais en dansant. Et on a le sourire aux lèvres, mais il y a les larmes qui coulent en fait.
C'est intéressant, Dadju, parce que ça dit beaucoup de votre conception de la musique et du métier d'artiste. En quoi l'un des rôles de l'artiste pour vous, c'est aussi d'incarner quelque chose de solaire, quelque chose de lumineux?
C'est important. Je vous ai dit, il faut que ma musique me corresponde. Et je suis quelqu'un de très positif. Donc j'ai envie de donner de la joie, de la bonne humeur aux gens, tout simplement. Et donc, je vais chercher cette chaleur dans ma musique pour pouvoir la transmettre à tout le monde.
Quel artiste vous a donné le plus de joie, vous, en tant qu'auditeur?
Waouh, il y en a plein. Il y a le meilleur artiste de tous les temps, Michael Jackson. Il m'a donné de la joie et à en mourir.
J'ai quelqu'un d'autre en tête, moi.
Franchement, j'en ai plein. J'ai mon père.
Puis une certaine Céline, quand même.
Céline Dion. Je voulais pas le dire.
Ah bah, comptez sur moi. Avec quelle chanson de Céline est-ce que vous avez grandi?
S'il suffisait d'aimer.
Ça faisait comment déjà? J'ai oublié.
Vous avez vraiment oublié? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer.
mais la classe, quand même, hein. En fin de compte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus Céline en vous, Dadju?
C'est l'amour. Raconter ses chagrins sous une belle mélodie, sous un calme olympien. Ça me fait penser un peu comme au son Reine que j'avais fait un de mes premiers singles et qui est aujourd'hui un de mes plus gros. Pourquoi je pense à ce titre-là? Parce que j'ai été félicité par Jean-Jacques Goldman, en fait. Justement pour ce titre, moi qui suis un grand fan de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion, et Jean-Jacques Goldman qui me dit ton titre Reine est incroyable en fait, et ça a été peut-être le plus beau compliment que je pouvais recevoir.
Reine, ça faisait comme ça.
Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever.
Puis Dadju, tant qu'on y est, c'est aussi ça. Hein.
Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux.
C'est ça aussi.
Donc on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. J'ai qui dira dans si je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. J'ai qui dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder.
Et dans le dernier album, il y a ça.
Elle veut
king comme moi. Elle mérite un king comme moi.
D'Adjou, l'image sur laquelle vous jouez à travers ces titres, c'est quand même celle du romantique.
Ouais, c'est
du
vrai.
Du charmeur, tantôt cœur brisé, tantôt bourreau des cœurs. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de plus lover en vous?
Bah écoutez, un peu des deux. Je suis un peu des deux, honnêtement. J'ai ce côté bourreau des cœurs, j'ai ce côté cœur brisé aussi de temps en temps. Honnêtement, toutes ces histoires me concernent un peu.
Et vous me voyez venir peut-être, dans quelle mesure devenir artiste, devenir une personnalité publique, c'est aussi apprendre à se créer des personnages, se créer un personnage aussi?
C'est une bonne question, parce que j'ai essayé de me créer un personnage, j'ai essayé de trouver un blaze, comme on dit, un surnom d'artiste et tout. J'ai pas réussi à trouver de nom d'artiste, donc j'ai gardé mon vrai prénom.
Dire que ça fait blaze déjà.
C'est vrai que ça fait blaze. Et j'ai essayé de me créer un personnage, mais je préfère rester moi, faire ce que j'aime, dire ce que j'ai envie de dire, sans pour autant avoir un personnage.
Mais je vous pose la question aussi, parce qu'il se trouve que vous êtes actuellement à l'affiche du film de Nils Tavernier, qui s'appelle Ima, dans lequel vous jouez votre propre rôle.
Exactement, exactement.
Donc c'est pas un personnage, Dadju.
Dadju, c'est pas vraiment un personnage, c'est tout simplement moi. J'essaye de rester moi le plus possible, et je pense que c'est ce qui touche le plus mon public, le fait que j'essaye de rester moi le plus possible.
Vous avez toujours chanté l'amour?
Non, pas toujours. Au début, j'aimais même pas ça du tout. Au début, je voulais pas. Mais je pense que c'est l'âge. Je pense que c'est la jeunesse. Je voulais pas chanter l'amour. J'ai grandi dans le 93. Vous savez, quand on écoute des chansons comme ça, on peut les aimer, mais quand autour de vous, tout le monde est rappeur, tout le monde rappe en fait.
On n'ose pas le dire.
C'est pas qu'on n'ose pas le dire, c'est que tout le monde est en train de rapper autour de toi. Tu vas arriver, chanter, je t'aime, pourquoi faire? On s'en fout en fait.
Vous dites je t'aime, vous pensez à la même chanson que moi, celle de Lara Fabian.
Oui, exactement. Comme un fou, comme un soldat.
Comme une star de cinéma, Dadju. Vos premières chansons, de quoi elles parlaient alors?
Bah écoutez, je parlais un peu de tout. Je parlais de la vie, je parlais de... Bah, on était en groupe avec Shinsekai, on parlait de nos rêves avec le son rêvé, on parlait de se battre du berceau au linceul. On parlait de thèmes qui étaient de mon âge à aujourd'hui, et pas de l'âge que j'avais, de l'âge que j'avais à l'époque.
Et vous les faisiez écouter à Maître Gims, par exemple?
Bien sûr, il a écouté tous mes sons, hein, même ceux qui sont pas sortis. Et il y en a plus qui sont pas sortis que l'inverse. Mais ouais, il a toujours écouté les titres, il a toujours donné son avis sans pour autant m'aiguiller en disant sors ça, fais ça. Il a toujours voulu que je fasse mon chemin à moi, sans m'aiguiller, pour ne pas que je sois sous son influence.
Alors, à quel moment est-ce que vous avez vraiment décidé, Dadju, de vous lancer dans la musique?
2010, 2011, par là.
Comment ça s'est fait?
Je travaillais au McDonald's et j'accompagnais beaucoup Gims au studio. Et un jour, il m'a dit, on était juste lui et moi, l'ingé son, et il m'a dit, bah tu sais quoi, vas-y, pose un truc. Il y a le micro est là, vas-y, pose un truc.
Mais vous aviez préparé quelque chose?
Rien du tout.
Sans filet?
Rien du tout. Et parce que j'avais l'habitude, il m'entendait. Moi, j'ai l'habitude de tout le temps chanter un son que j'aime bien. Donc
vous avez chanté quoi?
Ben on a chanté un son qui n'existe pas en fait. Il m'a dit on invente un truc, on fait un son, on a fait un son tous les deux et le son était super nul. Il était vraiment nul le son.
Alors il vous l'a dit?
Ouais. Il m'a dit non, le son il est pas bon et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient bien aimé le son, qui l'écoutaient, qui avaient bien aimé et qui m'avaient dit t'as une bonne voix, continue, essaye de t'améliorer sur ça. On m'a donné beaucoup de conseils et voilà, j'en suis arrivé ici.
Mais alors par quelles étapes il a fallu passer avant de pouvoir vous affirmer en tant qu'artiste solo? Ça a pris du temps.
Ça a pris énormément de temps. Je suis passé par quelle étape? Je suis passé par l'étape de me trouver artistiquement, d'avoir cette facilité au studio. C'est beaucoup de travail, cette facilité sur scène. Ensuite, je suis passé par l'étape du groupe. Et ensuite, peut-être le plus grand mur que j'ai dû passer, c'est le fait d'être le frère de Gims, justement. Gims est une superstar, en fait. C'est un monstre qui est devant, qui prend toute la lumière. Et donc, quand tu arrives à côté... Déjà quand t'arrives à côté d'une star, c'est compliqué, mais quand c'est ton frère direct, c'est encore plus compliqué. Donc tout ce que je faisais revenait à Gims. Je pouvais sortir un album, on va dire c'est l'album que Gims a fait pour son petit frère. Je pouvais
Saoulait lui.
Ça l'a fait chier quand même, parce qu'il m'a vu travailler en fait. Il m'a vu travailler jour et nuit, il m'a vu aller au studio, il m'a vu pas dormir, il m'a vu galérer. Et le fait qu'on lui attribue à lui des mérites qui me reviennent à moi, c'est bien sûr que ça fait chier.
Mais quand même, la première fois que vous vous êtes entendu à la radio en solo, ça vous a fait quoi?
Bah, c'était un truc de fou. Si je savais comment faire des saltos arrière, je les aurais fait.
Vous les avez fait dans votre tête. Hein. La première fois que vous avez entendu votre musique sur France Inter, Dadju.
Franchement,
je me souviens pas.
Peut-être que demain, J'aurais une réaction.
Non mais demain, tout de suite, puisque vous êtes là, on va l'entendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Picsou en duo avec Gazo, extrait de votre nouveau disque Culinane qui sort aujourd'hui. Vous êtes sur France Inter avec Dadju. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Single Dicey, disque Dicey, je suis le diamantaire congolais. Appelle-moi Wi-Fi, toutes les Wi-Fi de ce pays sont connectées. Parle-moi Phoebe, parle-moi Frushy, on connaît que ça, c'est nos langues à nous. Gifle auditive avant d'être physique, prendre de force comme Francis Ganou.
On a la soupe par Francis Ganou, on a les bêtises jusqu'au Ghana. Jusqu'à là-bas, j'm'allume au Ghana, je suis high set, touchant le canard. Commande à HP, méga 10 autres, on a les canons. On a la patate, je peux les égayer. Mes films bis sont trop canons.
Je veux des bijoux, je veux des bisous. Demande à Spitzou, on démarre dans le zoo. Réalise les sous, demande-moi. Tu veux des bijoux, tu veux des bisous. Demande à Spitzou, je suis dans la réseau. Réalise les sous, demande-moi. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler. Pas si riche encore, donc on va continuer, continuer. Elle veut un bébé, mais tout le monde ne connaît pas le prix du lait. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler.
Viens pour ton contrôle d'identité. J'vois que pour la teuf et j'disparais comme une entité. Genre t'es trop une peuf, j'me sens obligé de te le répéter. Comme j'ai fait du zèle, t'attendras-tu si j'me fais péter?
Dans la vraie vie, pas sur les réseaux.
Oui, dans le liquide et dans la crypto.
Avec le liquide, j'achète la crypto.
Ma monnaie, j'encaisse, faut toujours encaisser.
Ma monnaie, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse.
Quitte à la Tessie, acheter une caisse.
Plus de joueurs qu'un mec du Texas.
J'suis qu'un mec d'en bas. C'est vrai, oui. Vous voulez pas m'attendre. Et moi, j'suis en haut, ma chère. La vie est chère. Tous mes gars s'attaquent aux banques. J'parle pas aux hops. Ils s'attaquent aux vents.
Tu veux des bijoux, demande à Spitzou, on démarre dans le zoo, réalise les sous, demande-moi. Tu veux des bijoux, tu veux des bisous, demande à Spitzou, je suis dans la réseau, réalise les sous, demande-moi. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler. Ah, c'est riche encore, donc on va continuer, continuer. Elle veut un bébé, mais tout le monde ne connaît pas le prix du lait. Quand le petit s'endort, elle sait m'appeler, m'appeler.
J'ai un peu de temps pour ta soif, viens pour ton contrôle d'identité. Je crois que pour la teuf. Disparaît comme une entité. Genre t'es trop une peuf, je me sens obligé de te le répéter. Comme j'ai fait du zèle, t'attendras-tu si je me fais péter?
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Alors je vous le dis tout de suite, il est beaucoup moins Picsou que Poussin Calimero. L'œil irrésistible, le sourire bon Dieu sans confession, calme, sérieux, rien qui dépasse, il maîtrise avec son petit bonnet vert, on sait pas du tout ce qu'il y a en dessous. Le musicien et chanteur Dadju, invité de Boomerang pour la sortie de son nouveau disque Culinane, dont on vient d'entendre un extrait Picsou, un titre où il est naturellement question d'argent, puisque ça s'appelle Picsou. L'argent, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça représentait surtout pour moi hier? C'était la solution à tous mes problèmes. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de problèmes qui étaient liés à l'argent. Et donc, quand on a que ces problèmes-là, on se dit que l'argent règle tous les problèmes. Aujourd'hui, j'en ai. Et j'ai encore des problèmes. Donc, je me dis, je suis bien dans ma situation, dans ma position. Mais j'ai changé d'avis sur l'argent. L'argent ne fait pas tout le bonheur. Il y contribue. Mais l'argent ne fait pas tout le bonheur. Il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui et que l'argent ne peut pas soigner.
Si on revient en arrière, au fond, quelle enfance est-ce que vous avez vécue? Qu'est-ce qui vous revient immédiatement à l'esprit?
Une bonne enfance, honnêtement. J'ai été heureux. J'ai plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai une grande famille. On est 14 frères et sœurs.
Quand votre mère est-elle arrivée en France?
23 ans, peut-être.
Et comment ça s'est passé, cette arrivée? Elle vous l'a raconté?
Elle a quitté le pays pour une toute nouvelle aventure. Elle a rencontré mon père. Elle est arrivée dans l'inconnu, en fait. Vous voyez, quand vous arrivez dans un nouveau pays et que vous repartez à zéro et que vous vous dites, en fait, là, ça va bien se passer, vous avez des rêves et des projets.
Et qu'on n'y arrive pas.
Et qu'on n'y arrive pas, en fait. Est-ce que ça se passe pas comme prévu, justement?
Qu'est-ce que vous ressentiez face à elle, justement?
Ben, je ressens le poids d'un devoir qui est naturel parce que c'est ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde, mais il est doublé par le fait que c'est elle qui m'a élevé, en fait, seule. Elle avait des rêves à elle qu'elle a supprimés pour les miens, pour les nôtres, et c'est une chose inestimable pour moi, et je peu importe ce que je peux lui faire, je peux lui donner tout ce qu'elle veut, des maisons, de l'argent, etc., mais il y a rien qui ne pourra rembourser cette dette là.
Mais ce que j'entends, moi, c'est que vous compensez aussi le sentiment d'impuissance que vous avez eu pendant des années.
Ouais, ma mère est très anxieuse. C'est quelqu'un d'anxieux jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si même un rhume, je peux pas lui dire que j'ai un rhume parce que sinon elle va pas dormir, elle va dire ouais mais il faut faire ça. Vous connaissez tous les remèdes de maman, etc.
Bah ça. Une cata.
Et elle est très 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 inquiète de par mon succès. Tu te reposes pas assez, tu dors pas assez. Et comme elle est très anxieuse, ça l'angoisse en fait tout ça. Donc j'essaye de masquer ça. C'est ma mère, elle est comme ça en fait.
Et votre père, Dadju?
Mon père est très fier de moi. J'étais avec lui encore il y a quelques jours. Mon père est très très fier de moi. J'ai aucune négativité envers lui.
Vous avez réussi à lui dire tout ce que vous aviez sur le cœur?
Non, je me suis jamais assis avec lui pour parler de ça. Je pense que je le ferai jamais. Mais on se sait, on se comprend. Et il le sait et je sais qu'il sait. C'est suffisant.
Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous trouviez en vous la force de pardonner?
J'ai grandi, j'ai mûri. Au fond, je me suis rendu compte que j'aime mon père. J'aime mon père au final. Donc, si mon père s'en va demain, je serai très triste. Et je serai encore plus triste si, pour ces années que j'avais, que je pouvais partager avec lui, je les ai passées à lui en vouloir, à être négatif avec lui. C'est mon père, en fait. Il fait partie de moi.
N'empêche, dans un contexte aussi précaire, Dadju, vous auriez pu pas garder le cap. Vous auriez pu vous perdre. Ça aurait été facile.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai eu des exemples. J'ai eu une éducation. Ma mère est très dure avec ça, très stricte avec ça. Et j'ai eu des exemples. J'ai eu des exemples de succès, par exemple.
Votre frère?
Mon frère, Gims, avant Gims Section d'Assaut, qui sont tous mes grands aussi. Et il y a eu ensuite leur solo, que ce soit Black M, que ce soit Lefa, etc.
Vous voulez dire que la musique, quelque part, c'est une éthique, une rigueur, un sérieux, qui permet justement de tenir le cap?
C'est super important, parce que sinon, on s'envole. Hein. On s'envole. Vous savez, quand être adulé par des millions de personnes, être tout le temps sollicité, on peut s'envoler. Quand on s'envole et qu'on touche plus le sol, l'atterrissage peut être violent. Donc je pense avoir gardé les pieds sur terre parce que j'ai des proches avec qui j'étais avant la musique et qui me rappellent la vraie vie. Et j'ai des exemples de succès, des gens qui ne sont pas devenus fous. Donc
à travers votre association qui s'appelle Give Back Charity, quel combat est-ce que vous avez à cœur de porter?
L'association Give Back Charity, je l'ai créée pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles au Congo. Je commence par le Congo avant de m'étaler sur le monde entier. J'ai été très touché par le discours du prix Nobel 2019, le docteur Denis Mukwege,
oui,
qui a passé sa vie à réparer les femmes, comme il le dit. C'est un super-héros pour moi, c'est un super-héros pour mon pays, et j'ai eu envie de l'aider, de donner ma voix et de donner ma force pour ce projet-là.
Oui, c'est ça, parce que give back, en anglais, ça veut dire rendre. Qu'est-ce qu'il s'agit de donner, en fait? Qu'est-ce qu'il s'agit de rendre?
Ben, il s'agit de donner de l'aide, d'apporter du soutien physique, du soutien moral. C'est très important. Il faut savoir que ces femmes-là ont vécu des moments atroces. Et c'est pas l'argent qui va régler tous leurs problèmes. Elles ont besoin de quelqu'un qui leur parle. Elles ont besoin de savoir, de se sentir aimées, de se sentir femmes à nouveau. Parce que elles ont vécu quelque chose d'inhumain. Elles ont besoin de ressentir que, voilà, elles sont comme toutes les autres au final. Et ça démarre par de la positivité, comme je vous l'ai dit encore une fois tout à l'heure. Les messages que je reçois de ces femmes-là qui me disent, franchement, tes musiques nous font plaisir, nous font chaud au cœur, c'est ce qui me touche le plus.
On va leur faire plaisir alors. Et on va leur donner du cœur. Je vous ai donné carte blanche pour terminer cette émission, Dadju, et vous avez choisi de reprendre, on est ravis, une chanson de Gilbert Montagné qu'il a coécrit avec Dario Farina et Claude Lemel. Ça s'appelle « J'ai le blues de toi ».
Yes.
C'était en 1984. Vous êtes accompagné par Brice Myrion au piano et par Eric Kerridge à la guitare qui sont glissés dans le studio. On y va?
On y va.
On y va.
Let's go.
Silence tendre et de ta voix, oui, j'ai le blues de toi. tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Hey. Nos souvenirs explosent ma tête. Notre avenir est un vieux gadget. Une aventure que tu as oubliée. Yeah. Et tes violons de mélancolie me font un long solo de folie. Tu es partout sur mon calendrier. J'ai le blues de toi, de tes silences tendres, de ta voix. Oui, j'ai le blues de toi, sans qui j'ai tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Porte ton drapeau, tu as brûlé mes avions de papier.
L'amour, 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 Gilbert Montagnier, par Dadju. Merci, Dadju, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci aussi à Benjamin Troncin, tout en love, à la prise de son ce matin. Je rappelle que Culinane, Dadju, votre troisième album sort aujourd'hui, que vous êtes également à l'affiche de Ima, de Niels Tavernier, avec Khadija Touré notamment, et que vous serez bientôt en tournée dans tous les Zéniths de France, puis aux États-Unis, du 20 mai au 3 juin, en attendant le Parc des Princes, le 18 juin. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Victor Candelaft et Jean-Baptiste Dibert. On se retrouve lundi au Festival de Cannes où l'on prendra nos quartiers pendant toute la quinzaine pour parler de cinéma, mais aussi d'engagement, d'ouverture sur le monde, sur France Inter. Tout de suite, les médias, Sonia De Villa et son instant M. Est-ce que vous m'entendez, Sonia?
Vous partez à Cannes,
bah ouais, on n'a pas le choix, mais on est ravis, parce que c'est un lieu de travail, d'ouverture au monde, de
et
cinéma.
Ben Cannes, ça commence aujourd'hui. Dans l'instant M, le cinéma, c'est maintenant à 9h40.
On va réviser alors.
Ouais. Salut Augustin, bon Cannes.